Voilà, la repentance. Hein? Nous avons déjà eu la grâce, le privilège, l'opportunité de considérer plusieurs caractéristiques de la réalité biblique qu'est la repentance. La toute première caractéristique qu'on a pu regarder ensemble, c'était que la repentance est accompagnée, est définie, hein, d'un changement de mentalité. J'ai tout dit, en tout cas. J'ai développé ce point. On n'y reviendra pas aujourd'hui. Je veux juste vous rappeler le chemin parcouru pour vous mettre en contexte, surtout s'il y a une personne ou deux qui est à sa première séance. Nous avons considéré que un changement de mentalité, on dirait même une révolution spirituelle, c'est un des éléments caractéristiques d'une repentance biblique, d'une repentance authentique. J'ai considéré également que la repentance est caractérisée par un sentiment de tristesse, un sentiment de désolation, de regret, de remords, voire de honte. Mais j'ai dit que ce n'est pas dans le sens négatif du terme. J'ai déjà expliqué en quel sens. On a vu aussi que la repentance est caractérisée par une reconnaissance de la personne repentante, de l'homme repentant, de la femme repentante, une reconnaissance personnelle et de son péché et la confession de ses péchés. On a vu aussi que la repentance est caractérisée par un détournement honnête et sincère de son péché ou du péché tout court. Voilà les quatre éléments caractéristiques qu'on a déjà considérés à propos de la repentance authentique, de la repentance biblique ou bien de la repentance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons regarder quelques autres éléments caractéristiques de la repentance biblique. Et le cinquième élément de la repentance biblique, aujourd'hui, c'est que c'est le renoncement. C'est le renoncement aux œuvres pour le salut, ou bien quant au salut, le renoncement aux œuvres, ou bien aux bonnes œuvres, quant au salut. Vous et moi, nous avons appris et nous croyons, nous acceptons, nous reconnaissons que nous sommes créés en Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, pour de bonnes œuvres. Hein? Paul dit que ces bonnes œuvres, Dieu les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Hein? Et Jean-Baptiste va nous dire de porter du fruit, ou bien du fruit digne de la repentance. Il parle de bonnes œuvres en disant cela. Porter du fruit ou des fruits dignes de la repentance. Il fait référence aux bonnes œuvres à pratiquer en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Hein? Faire des œuvres dignes de la repentance est une recommandation biblique. Pratiquer les bonnes œuvres, on y reviendra, bien entendu. C'est une caractéristique de la vie chrétienne. L'apôtre Jacques ira plus loin en disant que La foi sans les œuvres est morte. Hein? Elle ne vaut rien. Elle n'est pas visible. Tout cela pour dire que les bonnes œuvres ont leur place dans la vie chrétienne. Et non seulement les bonnes œuvres ont leur place dans la vie chrétienne, les bonnes œuvres font partie de la vie chrétienne. C'est plus que dit qu'elles ont leur place. Toutefois, la repentance biblique pour le salut exclut toutes bonnes œuvres. La repentance spirituelle pour le salut, pour la vie éternelle, pour le pardon des péchés, exclut toutes bonnes œuvres. J'espère que cela commence à être clair. L'expression renoncement aux bonnes œuvres signifie renoncer de tout espoir, hein? Renoncer à tout espoir dans une œuvre bonne, dans une œuvre de piété personnelle comme moyen de salut. L'expression renoncement aux bonnes œuvres fait référence au fait de renoncer à, ou bien de se détourner de toute assurance, de toute espérance, de tout espoir d'obtenir la vie éternelle, d'obtenir le salut, le pardon de ses péchés, la justification par la pratique de bonnes œuvres. Toute œuvre sur laquelle une personne pourrait compter au lieu de s'appuyer sur l'œuvre du Christ et sur Christ pour le salut, pour la vie éternelle, c'est une œuvre morte. C'est-à-dire une œuvre qui n'a aucune puissance, qui n'a aucune vertu, une œuvre inutile, une œuvre qui ne peut sauver personne. La parole de Dieu nous enseigne que le salut vient de la grâce seule, hein, par le moyen de la foi seule. Hein. Le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés, la justification ne vient pas des œuvres bonnes qu'un homme ou une femme puisse faire. Et Paul nous donne la raison, il dit, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Gloire à notre Dieu. L'apôtre Paul considère la grâce et les œuvres comme étant opposées. La grâce et les œuvres sont deux réalités opposées. Hein? Elles s'opposent. L'apôtre Paul va parler de cette même vérité en disant aux frères et sœurs de l'Église de Rome, en Romains 11, verset 6a, Or, si le salut est par grâce, voici le raisonnement de Paul, Or, si le salut est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Paul est en train de dire de deux choses l'une. Hein? Paul est en train de dire que la grâce et les œuvres quant au salut s'excluent, s'opposent. C'est l'un ou l'autre, c'est l'une ou l'autre, pardon. Et regardez, il conclut en disant, autrement, la grâce n'est plus une grâce. C'est logique. Hein? Qui a dit qu'il n'y a pas de logique dans l'évangile ou bien dans la Bible? Hein? On est dans la vraie logique ici. Hein? Or, si le salut, Romains 11, verset 6a, or, si le salut est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Ça ne peut pas être les deux. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si le salut est par la grâce, le même salut ne peut pas être par les œuvres. Les œuvres viendront après le salut. Et il faut qu'elles viennent. Mais avant le salut, pour le salut, vers le salut, elles n'y jouent aucun rôle. Donc, la repentance authentique exclut toute espérance dans les bonnes œuvres pour le salut. C'est-à-dire que les moi-même avec vous tape tout de nous vers Jésus-Christ pour la vie éternelle, nous ne devons rien amener nous. Et nous sommes conscients que nous ne devons rien amener nous. Et nous sommes conscients que le pas nécessaire pour nous ne devons rien amener nous. S'il est par les œuvres le salut, il ne peut pas être par la grâce de deux choses l'une. Gloire à notre Dieu. Ainsi, avant qu'une personne puisse exercer la foi en Christ pour la vie éternelle, pour le salut, pour le pardon de ses péchés, pour sa justification, elle doit d'abord, hein, à la repentance pour le salut, hein, à la repentance pour le salut, quand quelqu'un songe à se repentir pour avoir la vie éternelle, il y en a bagaille qui doit faire, et de renoncer à tout espoir d'obtenir le salut par tout autre moyen que ce soit qui n'est pas la grâce de Dieu. Voilà la vérité pour ce soir. Incidemment, et ça c'est une vérité qui est reconnue tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, Job dira en Job 9, versets 29 à 31, je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, gloire à notre Dieu, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements mourraient en horreur. Et on est bien dans l'Ancien Testament. Hein? Le patriarche crie au désespoir quant à lui-même. Ah, quant à sa justice propre, quant à sa justice personnelle, il crie au désespoir, il crie faillite. Eh bien, voilà l'état dans lequel tous ceux qui aspirent au salut, à la vie éternelle, doivent s'approcher de Dieu, à la repentance initiale. Gloire à notre Dieu. Et Job, comme l'apôtre Paul, il n'a pas essayé de s'asseoir, hein, de faire valoir sa propre justice. Non, il n'en a pas, hein, devant Dieu. Il n'en a pas. Et à Paul, c'est la même chose. Paul, quand Paul s'est tourné vers Christ, Paul n'a pas mis sa confiance dans la chair. Hein. Il se glorifie lui-même, il dit, il se glorifie en Jésus-Christ. Il s'appuie donc, hein, se glorifie en Jésus-Christ, il s'appuie sur Jésus-Christ. Il fait de la justice du Christ sa propre justice. Il renonce à sa justice pour saisir la justice qui est en Christ. Voilà l'état d'esprit dans lequel la vraie repentance s'opère quant au salut, quant à la vie éternelle, frères et sœurs. Il nous raconte cela en Philippiens, Paul nous raconte cela en Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 9. J'ai déjà considéré ce texte avec vous dans le cadre de cette étude, mais il est très à propos, je l'aime bien. On va le lire ensemble. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 9. Voilà comment Paul explique ce renoncement aux œuvres mortes quant au salut, quant à la vie éternelle. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, en ce qu'il est, en ce qu'il a, pour le salut. Mais si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, ouais, tout atout que le gagné, hébreu, né d'hébreu, tout c'est des atouts. Chaque sale nommé, c'est un atout. C'est un bagage que était capable, que tendance fait valoir dans son humanité. par rapport à la justice du Christ, par rapport à la vie éternelle. Mais il dit que toutes ces choses n'ont eu aucune importance quant au salut. Il dira, quant à la loi, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est un homme qui a une certaine éthique, et à part qu'il fut un criminel. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, dit Paul, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Voilà, voilà le terme. J'ai renoncé à tout. La repentance implique le renoncement à tout, y compris aux bonnes œuvres, y compris à la justice propre, à ses propres capacités quant au salut, quant à la vie éternelle. Je les regarde, dit Saint Paul, comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Si vous ne comprenez pas, voilà ça, mais ça ne peut pas comprendre. Non, afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, comme s'il en avait une. Mais il sait qu'il n'en a pas. C'est une façon de parler. Il parle de sa justice pharisaïque, celle qui vient de la loi, voilà, ça te là, celle qui vient de la loi, mais avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ. C'est-à-dire qu'il renonce à sa justice pour la justice du Christ, pour la justice qui est en Christ. Il renonce à sa vertu, à sa moralité, à sa loi, à son éthique, pour embrasser la loi du Christ, à l'éthique du Christ, et pour embrasser la justice du Christ, gloire à notre Dieu. Eh bien, Paul parle de son expérience pour devenir, hein, voici ce que Paul veut dire ici. Paul est en train de dire que, en partant de sa propre expérience de repentance, il est en train de nous dire que pour devenir les bénéficiaires du salut de Dieu en Jésus-Christ, eh bien, tout homme ou toute femme qui a cette aspiration doit non seulement se repentir de ses péchés, comme on l'a vu, mais également il doit renoncer à ses bonnes œuvres. Tout homme ou toute femme qui aspire au salut que Dieu donne en Jésus-Christ, eh bien, il est appelé à croire. Il est appelé à avoir confiance en ce que Dieu a fait pour l'homme par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ seul. Tout homme, Paul est en train de dire, à partir de sa propre expérience, il est en train de dire, tout homme ou toute femme qui aspire au salut, qui veut se repentir pour le salut, eh bien, il doit abandonner tout autre espoir, comme je le disais, toute autre assurance, toute autre confiance. Hein, en quelques éléments que ce soit, et pour placer sa confiance, pour mettre son espoir, son espérance en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, et également, frères et sœurs. Paul dit que ceux qui aspirent au salut doivent croire en ce que le Christ a dit qu'il a accompli, en ce que les Écritures disent que Christ a accompli. C'est en cela qu'il doit mettre sa confiance. C'est en cela qu'il doit mettre son espérance d'obtenir enfin ce salut tant rêvé, tant recherché. Non pas sur aucune œuvre que ce soit, non pas sur aucune personne que ce soit. Il doit renoncer à tout, comme Paul dit l'avoir fait lui-même. Lui qui avait un paquet d'atouts, mais il savait que tous ces atouts-là étaient limités au terrestre, à la société juive à laquelle il appartenait à l'époque. Mais ça n'avait aucune importance quant au salut, quant au pardon du péché, quant à la vie éternelle. Hein? Ce qui importe, c'est la personne du Christ et ce qu'il a fait pour nous. Hein? C'est ça qui est capable de nous réconcilier, eh bien, avec Dieu. Chers amis, l'éternel Dieu demande à tous les hommes du monde entier de se repentir de leurs péchés. Et en même temps, l'éternel Dieu demande à tous ceux qu'il appelle au salut de croire en Jésus-Christ, son Fils, pour obtenir la vie éternelle. L'apôtre Jean va écrire dans sa première épître, 1 Jean 3, verset 23, et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus va faire une déclaration semblable lorsque les foules lui ont demandé à Jésus, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et le Christ de leur répondre en Jean 6, verset 28b à 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La repentance implique un renoncement à soi et à tout ce que nous pourrions avoir comme bonnes œuvres, à tout ce que nous pourrions produire, à tout ce que nous pourrions avoir comme actif, hein, dans notre passé, dans notre présent, pour seulement, uniquement croire à Jésus-Christ, en celui qui l'a envoyé. C'est ce que vous aviez fait quand vous êtes venu au salut. C'est ce que j'ai fait quand je suis venu au salut. Et c'est ce que vous devez enseigner aux gens que vous rencontrez quand vous leur partagez l'évangile. Mais c'est ce que vous devez leur expliquer et quand vous allez leur parler de la repentance. Il est aussi important de comprendre que les gens ne peuvent pas obéir au commandement que Dieu nous donne, à savoir croire en Christ en croyant en même temps à d'autres choses pour le salut. Paul l'a dit, ou la grâce ou les œuvres. Cela ne peut pas être les deux en même temps. Croire que Jésus est le Sauveur du monde, croire que Jésus est le Fils de Dieu, implique automatiquement de croire, de reconnaître et d'accepter que seul Jésus a le statut de Sauveur du monde. Croire que Jésus est le Sauveur du monde implique de croire que seul Jésus a cette prérogative, a cette faculté, a cette capacité, à ce statut, à cette identité. Personne d'autre, aucune autre œuvre, aucune autre personne n'a ce statut, n'a cette identité pour le salut, pour la vie éternelle. Il y a pas des sauveurs du monde. Il y a un sauveur du monde. Il ne s'agit pas de croire que Jésus est un sauveur. Jésus n'est pas un sauveur. Jésus est le sauveur. Il est l'unique. Il y a un seul sauveur par notre Dieu. Il y a un seul sauveur. Il n'y a pas un sauveur. Il y a le sauveur. Gloire à notre Dieu. Personne ne peut prétendre au titre, au statut de sauveur que Jésus-Christ lui-même, mes frères et mes sœurs. Donc la foi authentique, la foi pour la repentance, la foi de la repentance, la foi pour le salut, eh bien, implique une confiance absolue en Jésus-Christ comme sauveur. Mais vous l'aurez compris, les œuvres ne sont pas inutiles. Hein? Les œuvres ne sont pas inutiles. Les œuvres sont les bonnes œuvres. Dieu les a préparées d'avance pour ceux qui se repentent sincèrement de leurs péchés et qui acceptent, qui embrassent Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. Donc, avant le salut, les œuvres ne sont pas importantes, mais dans le salut, après le salut, après la repentance, eh bien, les œuvres ont leur place. Les œuvres découlent d'une vraie repentance. Hein. Ah, c'est important. Alors que les œuvres n'amènent pas au salut, hein, alors que les œuvres ne jouent aucun rôle dans la repentance, mais les œuvres découlent d'une vraie repentance. On en parlera si Dieu veut. Les œuvres découlent. Ah, les œuvres n'amènent pas le salut, mais les œuvres découlent du salut. Les œuvres, c'est une conclusion, c'est une conséquence du salut. Nous accomplissons des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. De toute éternité, Dieu savait qu'il allait fonder l'Église et il a préparé les bonnes œuvres que l'Église doit pratiquer. Incidemment, une Église qui ne pratique pas les bonnes œuvres n'est pas une Église. Un chrétien qui ne pratique pas les bonnes œuvres n'est pas un chrétien. Voyez-vous? C'est très important de comprendre ça. Mais quant au salut, aucune importance. Gloire à notre Dieu. Voilà tout pour ce point qui est le renoncement aux œuvres mortes, aux bonnes œuvres. Bon, c'est réglé. quant au salut. Maintenant, nous passons à un autre élément caractéristique de la repentance biblique, c'est l'acceptation de Dieu. L'acceptation de Dieu. C'est comme si dans toute sa dit depuis quoi, trois séances, ce point, ça a traité déjà dans un sens. Mais nous allons lui accorder une place spéciale, une place à part. Nous allons le traiter à part, même si à l'occasion, il a été touché, il a été quand même effleuré. Okay? Nous allons l'approfondir à part. L'acceptation de Dieu, donc pas oublier, non, là. La repentance ne se limite pas au fait de se détourner du péché. Une repentance qui se limite au fait de se détourner du péché est incomplète. OK? Elle est incomplète. Tant qu'il n'y a pas un retour total à Dieu, cette repentance-là est incomplète. Se détourner d'une chose, se détourner du péché, c'est une chose, mais accepter Dieu, embrasser Dieu, recevoir Dieu, c'en est une autre. Cette vérité de la parole de Dieu est particulièrement exprimée dans deux passages bibliques que nous allons regarder. Il y en a sorti dans l'Ancien Testament, l'autre l'a sorti dans le Nouveau Testament, deux passages, ça y est. OK? En regard des premières, pas oublier, non? On dit que la repentance suppose l'acceptation de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de se détourner du péché, mais il s'agit aussi d'accepter Dieu, d'embrasser Dieu, de recevoir Dieu dans sa vie. Et il y a deux passages bibliques pour ça, parmi un million. Il y en a dans l'Ancien Testament, on a regardé pour Asouya, et il y en a dans le Nouveau Testament pour fonder vérité ça. Allons d'abord commencer avec l'Ancien Testament, Isaïe 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie, gloire à Dieu, on y est. Que le méchant abandonne sa voie, donc il se détourne là, il se détourne. Hein. Et l'homme d'iniquité ses pensées, donc encore un détournement, abandon, détournement, se détacher du monde. Qu'il retourne à l'Éternel. Ah, il y a un double mouvement. Hein? Bon, il y a un double mouvement. L'Écriture ne s'arrête pas au fait juste d'abandonner. Ah, on a donc pas fumé, même pas boire, même pas fait ci, même pas tuer, même pas fait ci, même pas fait ça. Pourquoi on a des moules à l'évangéliser? Même pas boire, même pas fumé, même pas nan drogue, pas. Pourquoi on est? Baguette de madame, baguette de. Pourquoi on est? Il y a cité, 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 mais on a mis temps, il y a neutre. En plus, une fois, ça, c'est vrai. Des hommes, mais oui, des hommes de bien, quant au monde, des femmes de bien, quant au monde, qui n'ont rien. Hein? Mais, en rien, ne signifie pas le salut. Il faut se tourner vers Dieu aussi. Ouais? Qu'il retourne à Dieu, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Donc, voilà, Sam d'Abdoulala. Donc, ça implique un abandon pour une affection. Hein? Ça implique un détournement pour se tourner vers Dieu. Donc, abandonner le monde et saisir Dieu, saisir la main de Dieu, saisir Dieu. Ça, c'était pour le passage de l'Ancien Testament. Donc, c'est un texte qui met l'accent sur un retour à Dieu pour l'homme. Le renoncement n'est pas une fin en soi. L'abandon de nos voies, de nos pensées, de nos péchés n'est pas une fin en soi. C'est un premier pas, c'est un pas important, un bon pas. Mais il faut compléter ce pas. Il faut terminer ce pas par l'acceptation de la seigneurie du Christ, de Dieu sur sa vie. En un mot, il faut compléter ce pas par un retour à Dieu. La repentance implique d'abandonner et pour se tourner vers Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous nous détournons du péché afin de pouvoir nous tourner vers Dieu. En même temps, un double mouvement et spirituel qui se passe. Il y a On ne peut pas séparer ces deux démarches. Ou alors, quand on les sépare, mais il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens, tant qu'on parle de tout à l'heure. Ça donne des individus neutres. Or, l'Écriture nous enseigne très clairement que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de neutralité. Hein? Il n'y a pas de neutralité. Si on se détourne et on ne se tourne pas vers Dieu, ça ne marche pas. On est neutre. Bon, il n'y a pas de neutralité. Et gloire à notre Dieu. Donc, nous ne pouvons pas aimer en même temps le monde et Dieu. Maintenant, ça c'était pour le premier passage de l'Ancien Testament. On va regarder un deuxième passage que nous trouvons dans le Nouveau Testament qui nous dit la même chose dans un autre contexte, bien évidemment. Mais c'est comme une illustration du premier passage. Le deuxième passage est comme une illustration du deuxième passage. Ça vient compléter, ça donne un exemple de ce qu'a dit le premier passage. Voyez-vous, j'ai prêché ce texte à l'église, je pense. 1 Thessaloniciens 1er, verset 9 à 10. Paul qui s'adresse aux frères et sœurs de Thessalonique et qui va décrire, hein, rien de moins, qui va décrire la conversion de l'église de Thessalonique en ces termes. Détourner pour se tourner. Ah, se détourner du monde pour se tourner vers Dieu. Se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Se détourner de sa voie pour se tourner vers Dieu. Paul dit car, 1 Thessaloniciens 1er, verset 9 à 10, Paul dit aux frères et sœurs de Thessalonique, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Gloire à Dieu. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Il ne s'arrête pas là. C'est pas terminé. Pour servir le Dieu vivant et vrai, ah, vous êtes là, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère. Une fois de plus, hein, l'évidence est là. Hein? Le fait de se détourner du péché pour les frères et sœurs de Thessalonique entraîne pour eux le fait de se tourner vers Dieu. Gloire à notre Dieu. C'est même une preuve de leur conversion d'après Paul. Hein. Et ils ne se sont pas seulement détournés de l'idolâtrie, de leur ancienne vie d'idolâtrie. Hein. Ils se sont également tournés vers le Dieu vivant et vrai pour le servir en toute soumission, en toute obéissance. C'était une église exemplaire. En toute soumission, en toute obéissance. Avec joie. Frères et sœurs. Voilà. Comme c'est le cas pour toute repentance biblique, pour toute repentance spirituelle, toute vraie et authentique repentance, la repentance des frères et sœurs de Thessalonique a été caractérisée par un détournement et un retour. Un détournement de quelque chose, du monde. En l'occurrence, l'idolâtrie, et un retour à Dieu ou vers Dieu. Un rejet du péché, du monde, de la chair, une renonciation au monde, à la chair, au péché, et un retour, un désir, une acceptation, une aspiration, hein, passionnée de Dieu, le Dieu saint, le Dieu juste. Le Dieu Tout-Puissant, éternel. Gloire à notre Dieu. Il y a un septième élément qui caractérise toute vraie repentance, en plus de tout ce qu'on a regardé, c'est l'obéissance pratique. L'obéissance pratique. Renoncement aux bonnes œuvres, quant au salut, hein? L'acceptation de Dieu et maintenant, pour aujourd'hui en tout cas, l'obéissance pratique, troisième élément caractéristique de toute vraie repentance. Une vie marquée par une obéissance sincère au commandement de Dieu est peut-être la preuve la plus évidente et la plus certaine d'une vraie repentance. On a des amis là. Moi, avant de causer sous ça la fois passée, oui. Donc, à un bon chrétien Chanel, oui. L'église de Corinth est Chanel, oui. Donc, quand on homme dans l'église, dans femme dans l'église, quand marche le plus complexe sauvé, oui. Mais qu'à cela ne tienne, toute vie chrétienne authentique, toute vie repentante authentique est caractérisée dans la globalité des choses par une vraie soumission à Dieu pour une vie de justice, de sainteté, de sanctification. Dans la mesure où la vie d'une personne est conforme au commandement de Dieu, tel que l'Écriture nous donne les commandements de Dieu, cette personne peut croire qu'elle est repentie. Il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, et la vie chrétienne n'est pas exempte. On a regardé tout cela mercredi passé, mais qu'à cela ne tienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart du temps, monde qui repentit à la victorieuse sur le péché. Et on veut plus monde qui sincère avec Dieu dans une vraie repentance. J'ai parlé de Jean-Baptiste tout à l'heure, qui parle des fruits dignes de la repentance, Matthieu 3, verset 8. Si quelqu'un a vraiment tourné son cœur vers Dieu, elle donnera son cœur à Dieu dans la soumission, dans une vie de justice, dans une vie d'exclusion du péché, dans une vie où le péché sera toujours un accident de parcours, de voyage. En tant que pèlerin, ben oui, il a fauché, il a trébuché. Mais il a sauté, il va prêter dans le péché. Il va pas à l'aise, il a fatigué, il a fâché. Il a fâché, il a le péché. Il a fâché. Il va être content. Il va confesser vite. Il va miser. Nous avons plusieurs textes pour cela. Parmi lesquels, on peut regarder Matthieu 7, versets 19 à 21. Regardez ce que le Christ dit. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Saint Paul fera la même chose quand il dira, Actes chapitre 26, verset 19 à 20, regardez, regardez ce que Paul dit. Et il s'exprime devant le roi Agrippa, ok? Il se défend, il défend l'évangile, il défend sa foi, sa conviction chrétienne. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance, gloire à Dieu, et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà ce que Paul enseigne dans toute la Judée, à Jérusalem, partout. J'ai prêché la repentance et la conversion. Les deux termes sont interchangeables, cela dit, mais avec la pratique d'œuvres dignes, la théologie, autrement dit, la théologie apostolique n'a jamais conçu une vie de repentance, une vie de conversion, sans une vie de sainteté. C'est les deux ensemble qui étaient prêchés. C'est très nouveau que je dis à son seul qui prêchait. C'est très nouveau, peut-être dans les 60 dernières années. C'est les deux ensemble. Et je dis à Odysseus, prêcher mon nom, la sainteté a pourri, a quitté l'église. Mais c'est ça. Et il se trouve que, bon, voilà. Mais c'est les deux ensemble. Le Seigneur Jésus-Christ l'expose très clairement dans le sermon sur la montagne. Ceux qui se sont vraiment repentis et qui ont cru seront reconnus à leurs fruits. On va y aller les chrétiens, on va y aller les gens qui repentis, on va y aller les enfants de Dieu, les bagailles qui disent, les bagailles qui démontrent. Hein? On songe, il a dit ça. Hein? Il a dit ça, va dire qu'un chrétien n'a pas qu'à commettre péché, non? Mais en général, un chrétien ne vit pas dans le péché. Ça me dévoue. Et ça me détourne la fois passée. Et même si, bon, voilà, hein, c'est ça, c'est de ça qu'il est question. C'est une vie de péché. Une vie de pratique de péché. C'est de ça qu'il est question. Il y a un dernier élément pour ce soir. Et ça, celui-là, c'est très important, hein, pour notre compréhension, pour la doctrine aussi, pour la vie chrétienne pratique. Hein. Et c'est très près de ça, nous sommes dit là, d'ailleurs. Le quatrième élément pour ce soir, oui, c'est le quatrième pour ce soir. C'est la continuation et l'approfondissement de l'œuvre de repentance. Ah! Pas oublié, non? Le renoncement aux bonnes œuvres, hein? Le renoncement aux bonnes œuvres, l'acceptation de Dieu, l'obéissance pratique, comme des caractéristiques de la repentance. Mais regardez ça. Une vraie repentance est caractérisée aussi par la continuation et l'approfondissement de la repentance ou bien de l'œuvre de repentance. Ça t'a dit ça. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que toute vraie repentance, toute repentance biblique, toute repentance authentique, toute repentance sincère, les continuer dans la vie chrétienne, dans la vie de salut, les grandir, les approfondir dans la vie du croyant. C'est-à-dire que l'une des preuves qu'une personne s'est vraiment repentie pour le salut, hein, c'est que cette personne continue à se repentir tout au long de sa vie, aussi souvent que nécessaire. Il y aura la lutte contre la chair, il y aura la lutte contre la séduction du péché, on en a parlé mercredi dernier, il y aura la lutte contre l'endurcissement du cœur, mais la repentance marquera sa vie. Gloire à Dieu. Il s'agira d'une repentance toujours plus grande. Il s'agira d'une repentance toujours plus profonde. Il s'agira d'une repentance toujours plus mûre. Pourquoi? Mais parce qu'on est de plus en plus sensibilisé quant à la grâce, à la bonté du Seigneur, quant à sa réalité, quant à sa personne, quant à sa puissance, quant à sa sagesse. On est de plus en plus sensibilisé quant au péché. On est devenu plus allergique. Et voilà qui nous met tout le temps dans un état de repentance. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi le Christ dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Quand le Christ dit, heureux les affligés, car ils seront consolés, il ne parle pas seulement des attristés ou bien des affligés au salut, monde qui vient pour la vie éternelle, tant que le moyen avec vous t'as venu pour la vie éternelle, au salut, t'as repenti pour la vie éternelle. Il parle aussi de ceux qui continuent d'être affligés par les péchés qu'ils peuvent commettre accidentellement, alors même qu'ils sont dans la vie éternelle. Ils seront toujours consolés parce qu'ils seront toujours repentants. Ils viendront toujours à Dieu, eh bien, dans un esprit de repentance, avec un cœur repentant. Gloire à notre Dieu. L'Éternel Dieu a affirmé la même vérité par l'intermédiaire d'Ésaïe en 66, verset 2b. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ce n'est pas seulement l'avenir au salut, que la porte est regarde sous nous, que l'accueil nous à bras ouverts. La parlé de nécessité de la repentance avant et dans le salut, pendant le salut, quand on est déjà dans le salut. Donc, cette promesse divine concerne ceux qui s'approchent de Dieu pour la vie éternelle, pour le salut, pour le pardon de leurs péchés, mais aussi ceux qui ont déjà obtenu le pardon de leurs péchés, cette promesse les concerne également. Donc, la repentance, ce n'est pas quelque chose que l'on fait uniquement au moment de la conversion et puis on se lave les mains, on s'en débarrasse. Non. La vie de repentance continue, et pas pour le salut, mais pour la joie du salut. Voilà. Voilà. Ah, avant que David s'est repenti, vous songez, on va aller étudier ça aussi si tu veux. Tant que je me suis tu, mes os se sont brisés en quelque sorte. Mais voilà. Donc, on ne finit pas avec la repentance parce qu'on est sauvé, parce qu'on a la vie éternelle, parce que nos péchés, on a la conviction du pardon de nos péchés. Au contraire, ayant cette conviction, eh bien, nous sommes alertes. Ah, nous sommes vigilants et nous sommes sensibles dans le respect de Dieu, dans l'amour pour Dieu. On s'empresse, eh bien, de nous repentir de nos péchés, de nos mauvaises voies, de nos mauvais détours, de nos chutes, et on confesse à Dieu. Donc, c'est le contraire qui est vrai. On n'en a pas fini, frères et sœurs. Alors, beaucoup de chrétiens souffrent, beaucoup de chrétiens ne grandissent pas parce qu'ils négligent cette vérité. Hein? Ils disent ce n'est pas grave. Alors que c'est grave de ne pas considérer la repentance dans la vie chrétienne. Ah, beaucoup de chrétiens ne progressent pas, ils ne grandissent pas, parce qu'ils ne comprennent pas cet aspect de l'évangile, de grâce, que la repentance vaut encore alors qu'ils sont sauvés, alors qu'ils sont dans le salut. C'est ce qui donne naissance, c'est ce qui donne lieu souvent à l'endurcissement du cœur. Mais j'ai mon âme et j'ai mon Dieu, alors que il a pris une mauvaise sortie. Il a pris un mauvais exit. Et puis, mais j'ai mon Dieu. Bon, si c'est l'exit qui t'a permis de parler avec lui-même, bon, bah, il est net. Mais voilà, il exclut. Ces gens-là excluent la repentance de leur vie. Ils pensent qu'ils n'en ont plus besoin. C'est une erreur, c'est une grave erreur. Monde qui levait, c'est monde qui baissait. Monde qui a obtenu pardon, miséricorde, c'est monde qui demandait pardon. C'est monde qui a avoué péché, l'avoué faute lui. Qui quittait lui, qui demandait bon Dieu grâce pour quitter lui, c'est lui-même qui réussit à quitter lui. C'est pour ça qu'on n'a pas de danger quand on méconnaît cette réalité-là. Ou alors quand on néglige la réalité de la repentance dans le salut même de Dieu. Voilà pourquoi c'est un danger. Voilà. J'espère que cela avait été clair. Si vous avez des questions, c'est bien le cas. On est moins controversé que mercredi dernier, mais qu'à cela tienne. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de question. Il est déjà 21h01. Mais bon, au bon moi, à 10, qu'on est à la barbe, on va regarder là. Au bon moi, à 10, qu'on est à la. On va regarder mon tour là. Alors voilà. Et j'espère que vous avez été bénis.